Jusqu'à 15h, vous écoutez Drainville PM au réseau Cogeco.
Qui est plus heureux derrière son ordinateur que dans la vraie vie?
Je suis dans une école de filles, je me fais comme intimider, mais en rentrant chez moi, la seule chose que je veux, comme, c'est plus rentrer dans le jeu vidéo puis jouer. Je veux comme éloigner de la réalité.
Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait une tentative de suicide? Il y en a 8 sur la gang Le 20 qui ont fait une tentative de suicide.
Mon garçon s'est enlevé la vie il y a un an et demi.
Nous, les enfants, genre, nos parents, c'est les derniers à qui on va en parler. Vous nous avez mis au monde, puis on ne veut pas vous décevoir.
Vous, les parents, c'est les derniers à qui on va parler.
C'est terrible et je souhaite ça.
Ça, c'est vrai. Je suis sûr que c'est tellement vrai, là. Malheureusement.
L'accès à tous ces services-là aujourd'hui est complexe. C'est très long. Il y a des délais très, très longs.
C'est vrai. C'est vrai que la santé mentale, ça n'a pas été l'objet de l'attention suffisante de la part de la société elle-même, ainsi que des gouvernements.
Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du documentaire Bail qui va être présenté ce soir à 21h sur les ondes de Radio-Canada. Ça va être présenté également en direct sur la page Facebook de Ici Radio-Canada Télé et en simultané sur Radio-Canada Première. C'est un documentaire, j'ai eu la chance de le visionner hier soir. C'est extrêmement bouleversant. Je vous le dis, si vous pouvez faire de la place dans votre soirée pour écouter ça, c'est vraiment exceptionnel et ça nous fait vraiment réfléchir, en particulier, en tout cas dans mon cas, moi j'en ai 3 enfants, là, puis mon plus jeune qui vient d'avoir 14 ans, il passe beaucoup, beaucoup de temps devant l'écran d'ordi. Alors je dois vous dire que ça m'a fait énormément réfléchir. On va aller rejoindre Alexandre Taillefer, que vous avez entendu dans l'extrait qu'on vient de vous présenter. Vous avez entendu également, si vous l'avez reconnu, Gaétan Barrette, le ministre de la Santé. Alexandre Taillefer, vous le savez, il a perdu son fils Thomas, qui avait 14 ans, qui a mis fin à ses jours sans donner de raison et qui était cyberdépendant. Alexandre Taillefer, bonjour.
Bonjour, Bernard Drainville.
D'abord, le documentaire s'appelle ou s'intitule Bail. Bail, B-Y-E, comme bye-bye, là. Est-ce que tu peux nous donner la raison pour laquelle c'est intitulé Bail?
Oui, oui, Bernard, c'est le seul message que Thomas nous a laissé. C'était sur un petit post-it informatique là, qu'on voit sur Windows. Et quand on a, en fait, on l'a jamais vu. C'est des photos des policiers qui ont trouvé son corps, qui ont transmis ce message-là essentiellement.
Pourquoi je vais te tutoyer parce qu'on s'est déjà parlé à d'autres occasions.
Oui.
Pourquoi tu as senti le besoin de participer à ce documentaire-là?
Ben, quand quelque chose comme ça arrive, il faut que tu... Dans mon cas, je me suis levé le matin, je me suis dit comment est-ce que je suis capable d'essayer de trouver du positif dans une situation dramatique. Et il m'apparaissait évident que il y avait un enjeu là dans notre société qui n'était pas adressé adéquatement. À la base, je voulais parler de la cyberdépendance, mais je me suis rendu bien compte rapidement que l'enjeu était beaucoup plus large. Et l'enjeu, c'est un enjeu de priorisation de la santé mentale au Québec. On ne traite pas ça avec les budgets requis. On attribue aujourd'hui moins de 2% de notre budget de santé à la santé mentale. C'est beaucoup trop peu.
Est-ce que tu crois, toi, que ton fils n'a pas été aidé correctement par le système de santé? Est-ce que tes recherches et le travail que tu as fait depuis le décès de ton fils t'amènent à croire que s'il avait eu davantage d'aide, il serait peut-être encore vivant aujourd'hui?
Je le crois définitivement. On a rencontré beaucoup de monde. On a rencontré des travailleurs sociaux. On a rencontré des psychologues. On a rencontré des psychiatres. On a dû amener Thomas de force à l'urgence parce qu'il avait un enjeu en juin. Et à toutes les fois, on a parlé de surdouance. On a parlé de troubles du sommeil. Mais à aucune reprise, est-ce qu'on a mentionné le terme suicide? Alors que, durant les recherches que j'ai effectuées, je me suis rendu compte que quelqu'un qui souffre de dépendance, qu'elle soit à l'alcool, à la drogue, au gambling, donc au jeu de hasard ou au jeu vidéo, a une chance sur 10, Bernard, de faire une tentative de suicide.
Mais c'est quoi le lien? C'est quoi? C'est énorme. C'est quoi le lien, Alexandre, entre la dépendance d'un côté et cette tentation de se suicider? Est-ce que tu as été capable de la décortiquer, de la mettre dans des mots?
Aujourd'hui, c'est assez bien documenté quand vient le temps de parler de drogue, d'alcool. On perd toute estime de soi. Les parallèles entre ces deux dépendances-là et la cyberdépendance semblent assez clairs. Alors, il y a une question de perte de confiance en soi, une question d'absence de sociabilisation qui est un réel enjeu parce que les gens ne parleront pas, ne vivront pas normalement, ils vont vivre uniquement dans un monde irréel. Quand on est accro à la drogue, on vit dans un monde irréel aussi. Alors, c'est un peu la question de l'œuf ou la poule, bien entendu, mais ça nous apparaît assez clair aujourd'hui que c'est un champ qu'il faut rechercher de façon importante. Là,
si tu permets, on va écouter un autre extrait de ce documentaire donc, qui sera présenté ce soir à 21h sur Radio-Canada et on revient à la discussion, Alexandre.
L'histoire de Loïc m'a particulièrement touché. J'ai rencontré un adolescent fragile, un peu comme mon Thomas.
Thomas a envoyé un message à un des gars qui est le plus connu sur Twitch, un appel à l'aide, là, où il expliquait clairement qu'il avait l'intention de se suicider. Pendant 6 mois, on n'a pas su qu'il avait ses intentions-là. Toi, tu avais écrit une lettre, puis ça a déclenché tout un processus. Là. Ils t'ont amené à Sainte-Justine.
J'étais juste plus capable. Là. C'était comme... Il y avait quelque chose que j'étais en train de vivre, là, que je n'étais pas capable de me débarrasser.
Je sais que c'est quelque chose de très difficile.
Oui.
Est-ce que tu me permettrais de la lire?
Oui.
C'est extrêmement personnel. Mon fils, la seule chose qu'il m'a laissé, moi, c'est « bye ». Il m'a jamais dit, avant de partir, comme tu le fais dans cette lettre-là, que t'aimes tes parents. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que tu dis dans cette lettre-là que tu sens que t'es un poids. Je pense que la chose la plus importante qu'il faut que tu te souviennes, là, Loïc, c'est que c'est tout à fait... l'inverse.
Alexandre, je veux qu'on revienne. Alors, Loïc, dans le fond, c'est comme Thomas, mais lui, il est toujours vivant, dans le fond. On le voit pendant le documentaire. Il va aller en comment t'appelles ça, le centre là qui s'occupe de ses enfants.
Le grand départ.
Voilà. Et donc, il en sort. Ses parents vont le chercher et tout le reste. Mais je veux revenir sur la cyberdépendance. Est-ce que la cyberdépendance, c'est la cause qui produit, dans le fond, des idées suicidaires ou est-ce que la cyberdépendance, c'est le symptôme d'un mal d'être qui est déjà là?
Ma compréhension aujourd'hui, pour avoir lu énormément d'études par rapport à ça, dont une dernière qui a été publiée il y a à peu près une dizaine de jours, où on démontre clairement l'augmentation des problèmes anxieux et des problèmes dépressifs chez les jeunes depuis 2010, depuis l'arrivée des téléphones intelligents de façon massive auprès de ces jeunes-là, c'est qu'on est probablement dans une situation d'œuf et de poule. L'une se nourrit de l'autre. Et si il y a des enjeux anxieux à la base, le fait d'être sur Internet, de s'y réfugier, de n'y passer que la majorité de son temps va amplifier les problèmes. Alors, faut pas se ruer chez le psychiatre ou le psychologue parce que son fils ou sa fille passe 25 heures, 30 heures par semaine sur Internet. Faut se souvenir que la moyenne d'heures d'écoute de télévision de la population canadienne est de 24, si je me souviens pas bien, 24 ou 25 heures. Alors, on est à peu près dans le même temps là, qui est passé sur Internet versus la télévision. Mais quand l'hygiène de vie est laissée de côté, quand la première chose qu'on fait en se levant le matin ou en se couchant, la dernière chose qu'on fait en se couchant le soir, c'est de jouer à des jeux vidéo, quand nos amis aujourd'hui sont virtuels, quand on n'a plus d'estime de soi à l'extérieur de l'ordinateur, il y a lieu aujourd'hui de s'interroger.
Mais Alexandre, ils veulent pas nous en parler, tu sais, c'est ça qui est fascinant. Ils veulent pas nous en parler, à nous les parents. Comme on l'entendait, un des jeunes là, que tu as rencontré dans le cours du documentaire dit « Moi, les parents, là, vous allez être les derniers à qui je vais en parler parce que je veux pas vous décevoir. » Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on est supposé faire? Qu'est-ce qu'on est supposé faire, nous autres, les parents? Là, d'emblée, on sait que ils vont en parler à tout le monde. Ils vont en parler davantage à quelqu'un sur Internet qui ne connaît même pas, qui n'a jamais rencontré en chair et en os qu'à moi, son propre père.
Tout à fait. Alors, ça, c'est un problème important. D'abord, la première chose, c'est que je vous conseille de le regarder ce soir avec vos enfants, parce que pour les gens qui l'ont vu déjà avec leurs enfants, ce qu'on se rend compte, c'est que les enfants ont tendance à ouvrir un dialogue. Et ça, pour moi, c'était un des objectifs visés, que les enfants puissent ouvrir un dialogue avec les parents. Le deuxième élément, c'est que effectivement, ils vont souvent envoyer des messages à l'aide où ils vont essayer de chatter avec des gens qu'ils ne connaissent pas, parce que c'est beaucoup moins gênant, parce que parler d'enjeux de santé mentale, c'est encore aujourd'hui tabou, et que les enfants qui pensent avoir des troubles anxieux veulent pas nécessairement s'en ouvrir de peur d'être qualifiés de fous, de peur d'être qualifiés de coucou. Et ça, aujourd'hui, c'est tout un travail qu'on a à faire pour recatégoriser la santé mentale comme étant un problème de santé équivalent à une grippe ou équivalent à une jambe cassée. Et ça, c'est un travail de très longue haleine.
Je vais te poser une question qui est vraiment pas évidente, là. Puis si elle est indécente, je m'en excuse, tu me le diras, là. Mais moi, j'ai la conviction profonde que de perdre un enfant, là, c'est le pire malheur qui puisse arriver à quelqu'un. Je l'ai déjà dit sur les ondes, je ne sais pas si j'aurai la force de m'en remettre. Et ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut perdre un enfant? Est-ce que perdre un enfant nous condamne à vivre sans bonheur pour le reste de nos jours?
C'est une bonne question. Les gens qui m'interpellent souvent sont gênés d'aborder cette question-là. Et bien sûr, moi, je m'en suis ouvert de façon, je dirais, différente. Là. Il y a très, très peu de gens qui vont faire ça parce que c'est très tabou, c'est quelque chose qu'on veut cacher. Dans mon cas, on a essayé de trouver une énergie pour faire un changement. Je pense, Bernard, qu'on ne redevient plus jamais pareil. Ça fait 2 ans maintenant. Je n'ai plus la légèreté, je n'ai plus le goût de faire la fête. Je m'indigne beaucoup plus facilement. Je suis devenu une autre personne. Est-ce que je qualifierais cette personne-là de moins bonne? Non. La recherche de sens, accélérer la recherche de comprendre pourquoi est-ce qu'on est ici. Puis quand tu fais ça, ça ne peut pas faire autrement que de générer ce genre de documentaire-là. On doit aujourd'hui comprendre qu'il me reste 40 ans à vivre si tout va bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais meubler ces 40 dernières années-là? C'est avec des projets comme BAI.
Donc, est-ce que je peux dire, tu es peut-être une meilleure personne, mais tu n'es pas nécessairement une personne plus heureuse. Tu es probablement une personne moins heureuse.
Je suis une personne moins heureuse. C'est clair que le bonheur aujourd'hui prend une saveur tout à fait différente.
En tout cas, merci. Merci de pas garder ça pour toi, puis de partager cette souffrance-là, cette peine-là, mais de vouloir qu'elle serve à quelque chose, d'essayer de donner un sens à cette épreuve que toi et ta conjointe et ta famille, vous avez dû confronter. Moi, je trouve ça exceptionnel, puis je le répète, moi, personnellement, ça m'a énormément touché, puis encore ce matin, j'en discutais avec ma conjointe. Ça, c'est vraiment venu nous chercher, et j'espère qu'ils seront nombreux à t'écouter ce soir, à écouter Radio-Canada à 21h. Alexandre Taillefer, merci.
Merci, Bernard, merci d'en parler avec autant d'ouverture. On n'a qu'une façon d'améliorer la chose, c'est de faire ce que tu as fait encore cet après-midi. Merci.
Merci. Et là, les auditeurs, ça va être à votre tour de nous dire peut-être que vous vivez dans votre famille une situation qui n'est pas facile, avec un enfant, justement, qui est cyberdépendant. Peut-être que, moi, c'est un mot que j'ai découvert, là. Je connaissais le mot dépendance, mais cyberdépendance, vous connaissez pas ça. Et peut-être que vous le découvrez en même temps que moi, ou peut-être que vous l'avez découvert avant. Puis si vous avez le goût d'en parler, ben 790-9850, Drainville à commercial 985fm.ca. On va prendre quelques-uns de vos témoignages après la pause. Alors, est-ce que vos enfants ou votre enfant souffre de cyberdépendance? On va aller rejoindre Jean-Daniel. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Très bien, très bien.
Oui, écoutez, moi, mon histoire est arrivée il y a 4-5 ans. J'ai une communauté québécoise dans des jeux en ligne, dans environ peut-être 200-300 jeunes qui viennent sur mes forums, sur mes serveurs jouer. J'avais, à un moment donné, joué avec mes chums. Là, ben, j'ai un des jeunes qui m'a appelé sur Skype pour me dire, faut que je te parle en privé, comme j'ai pas de trouble. Et pour vous donner une idée, il y a beaucoup de personnes sur mon forum qui ont mon téléphone personnel. S'il y a quelque chose, ils ont rien qu'à m'appeler parce que j'ai... S'ils ont des problèmes sur mon serveur, je peux le régler en n'étant pas devant mon ordi. Le jeune, il m'interpelle. Je m'en vais sur Skype. Vite, vite, j'ai appelé mon partner, qui lui est à Trois-Rivières. J'ai dit, Patrice, viens tout de suite. Va sur Skype, parle avec le jeune en question. Moi, j'ai pogné mon char, je savais où j'habitais. J'organise, moi, des paintballs et des sorties de ski pour les jeunes.
Ouais.
Je savais c'était quoi son adresse. Je me suis pointé chez lui. Quand ses parents m'ont vu arriver, et en quelques mois, c'était peut-être après le souper, ma mère me regardait en disant, ben, c'est Stras, mon nom de joueur quand je joue, là. J'ai dit, oui, madame, je vais y avoir un petit dis-moi, c'est où sa chambre? Et quand je suis rentré à sa chambre, le petit jeune, il me parlait qu'il se sentait pas bien, que il était carré de la vie, blablabla. Puis quand je suis rentré dans la chambre, il y avait déjà les outils de sortie qui étaient sur le bord de son ordinateur. Je ne sais pas si ça allait les utiliser. Mais cette journée-là, quand je suis rentré, la mère, elle me regardait. Elle dit, c'est quoi, qu'est-ce que c'est? Je dis, non. J'ai mieux parler de ça en ce moment parce que s'il m'en a parlé, c'est parce que il avait confiance en moi. Fait que la mère, pendant ce temps-là, elle avait appelé la police était venue. La mère, elle me connaissait, fait que c'était pas pour moi qu'elle avait appelé, mais c'était pour savoir ce qui se passait. Et le jeune en question s'en allait se suicider. Parce que les jeunes sur mes serveurs le niaisaient, l'intimidaient.
Parce que les jeunes sur le serveur, ceux qui jouaient, la communauté dont vous parlez, il y en avait qui l'intimidaient, c'est ça que vous dites?
Oui, c'est ça. Parce que moi, sur mes serveurs, j'ai des commandes d'administration. C'est simple. Ils peuvent prendre ces commandes-là et écrire ça dans leur console. Mmh. Ça peut bannir ou quitter un joueur, c'est que c'est désobligeant. Parce que moi, il y a des règlements établis. J'ai tous les règlements qui sont écrits dans mon forum.
OK.
J'avais donné les accès d'administration pour qu'ils puissent régler les problèmes quand le monde l'intimidait.
Jean-Daniel, en terminant, parce qu'il y a beaucoup d'autres appels, est-ce que le problème est réglé? Est-ce que le jeune en question...
Oui, mais écoute, aujourd'hui... Ça fait quand même 4-5 ans. Je parle encore très souvent. Le jeune va beaucoup mieux aujourd'hui.
OK.
Mais je me demande si des fois dans le monde du jeu en ligne, comme moi, je suis propriétaire de cette communauté-là,
ouais.
Combien de personnes vraiment sont prêtes à faire ça? Et en plus, moi, aujourd'hui, j'en ai 37, et dans ce temps-là, c'est arrivé, j'avais ça en 31, 32, 33. Là.
OK. Et
j'ai pris le temps d'aller le voir, le jeune. Mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. La madame, la mère était tellement heureuse que même la madame n'avait même pas vu le signe.
Mais c'est ça le problème, Jean-Daniel, c'est que souvent les parents ont... En tout cas. Merci pour l'appel. Nicolas, 22 ans, qui nous appelle. Bonjour, Nicolas.
Oui, bonjour. Vous allez bien?
Très bien. On m'a dit que tu es étudiant et que tu as déjà, été cyberdépendant, c'est ça?
En effet. De mes 16 à 20 ans, en fait, je pourrais dire que j'ai été super dépendant. Moi, le message que je veux envoyer, en fait, c'est qu'il y a vraiment une possibilité de s'en sortir. Pas facilement, mais il y a une possibilité de s'en sortir. C'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Ce que vous avez dit plus tôt en nombre, c'était très vrai. Aller voir nos parents quand on est super dépendant, c'est assez difficile parce que souvent, pourquoi un jeune peut virer super dépendant? En fait, dans mon cas, c'était beaucoup ma situation familiale. On veut s'isoler, tu sais. On pense à court terme que c'est une solution très viable. Dans les communautés en ligne, il n'y a pas juste du mauvais, comme l'autre appel, il peut y avoir du bon. des bonnes personnes qui vivent, en fait, on se rend compte, mais moi, je me suis rendu compte personnellement dans les forums que j'ai, dans les jeux en ligne que j'ai visités, qu'on n'est pas si différent de plusieurs personnes qui sont là-dessus.
Comment vous avez réussi à vous en sortir? Parce que cyberdépendant, là, ça veut dire que vous passiez 30, 40, 50 heures par semaine sur votre ordi
facilement,
à jouer en ligne, c'est ça?
Facilement, ouais. Ouais, très facilement.
Alors, en résumé, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'autres gens, là, mais en résumé, comment vous avez réussi?
Je peux comprendre. En résumé, moi, je suis allé chercher, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont mis la vérité en face de ce que je faisais. Ils voyaient que je sortais moins, des choses comme ça, j'allais moins les voir. J'en ai pris conscience par moi-même, mais je suis allé chercher de l'aide. Je suis allé voir un psychologue. Eux, les psychologues sont formés, sont préparés. Il y en a beaucoup des jeunes qui sont cyberdépendants et qui leur racontent leur histoire. Donc, ils ont beaucoup d'outils, je pense, pour aider ces jeunes-là. Moi, je pense que ça a été le premier move et le meilleur move que j'ai fait, en fait, pour commencer. Après ça, le travail, c'est sûr que c'est nous qui devons faire nous-mêmes. Justement, vous l'aviez dit, jouer aux jeux vidéo avant d'aller se coucher, c'est une des pires choses parce que ça garde notre routine bien allumée. Je ne sais pas comment dire ça, mais...
Oui, je comprends.
Ouais, exactement. Puis ça, c'est difficile, très difficile.
Bravo, Nicolas. Merci pour l'appel. Je suis content que vous vous en soyez sorti. Frédéric qui nous appelle. Bonjour, Frédéric.
Oui, bonjour. Moi, c'est un peu la même situation, mais je voulais appeler parce que j'ai comme l'impression que le message qui ressort des conversations que vous avez puis de qu'il y avait eu ce matin avec Isabelle, c'est très péjoratif, c'est un peu négatif la vision des gens qu'on a sur les jeux vidéo. Puis moi, j'ai eu une expérience complètement différente. Je pourrais être considéré comme une personne cyberdépendante, peut-être plus aujourd'hui parce que bon, j'ai fini mon bac, je travaille et tout ça, mais mon secondaire, mon cégep, mon université, je devais passer 35-40 heures par semaine sur mon ordinateur à jouer à des jeux, mais moi, j'ai jamais été dépressif. Au contraire, je suis une personne super heureuse. J'ai toujours été considéré comme extraverti. Puis j'utilisais les jeux comme une façon de continuer à parler avec mes amis le soir, de continuer à m'amuser, à rencontrer des gens que j'aurais jamais pu rencontrer si c'était pas des jeux vidéo. Puis aujourd'hui, mon expérience, puis ce que j'ai vécu avec toutes ces heures-là que j'ai passées, ben ça m'a aidé dans mon emploi. Les choses que j'ai appris en jouant au jeu, j'ai appris à faire du montage. J'ai parti une chaîne YouTube. Je me suis fait des amis. Ça m'a aidé aujourd'hui dans la vie, puis je voudrais juste peut-être sortir ce message-là pour certains parents qui peut-être s'inquiètent en voyant ces messages-là ou en voyant le documentaire ce soir. Je sais que c'est une problématique vraiment importante, mais il faut aussi comprendre que c'est pas toujours des jeunes dépressifs qui jouent aux jeux vidéo, c'est aussi une façon de sortir un peu du stress du quotidien aussi, puis c'est pas nécessairement toujours une mauvaise chose de jouer aux jeux vidéo. Si vos enfants, tu sais, moi ça inquiétait beaucoup mes parents, je suis d'accord, quand j'étais jeune, mais ils se sont rendus compte que finalement, ben ça a vraiment eu un impact positif sur ma vie. J'ai été animé des LAN, le LAN ETS à Montréal, avec 2 000-3 000 personnes qui étaient là à la salle Bonaventure où vous travaillez. J'ai été employé à plusieurs endroits parce que j'étais un des meilleurs dans les jeux vidéo. Puis maintenant, il y a des jobs dans les jeux vidéo.
C'est vrai.
Donc, il faut aussi peut-être relativiser cette réalité-là. Puis pas toujours être super négatif. Peut-être écouter vos enfants, ce serait la meilleure façon parce que moi, ce qui m'a fermé, puis pourquoi je voulais pas en parler à mes parents, c'est parce qu'ils me disaient que ben les jeux vidéo, c'était juste du négatif, puis il y avait pas possibilité de leur faire comprendre au début que ben il y a beaucoup de positifs aussi. Fait que peut-être si les parents y approchent cet aspect-là, de dire ben c'est correct que tu joues aux jeux vidéo, c'est pas la cigarette, les jeux vidéo, c'est pas le cancer, les jeux vidéo, c'est fait pour s'amuser, mais peut-être d'approcher ça d'une façon plus légère. Que la conversation sur le suicide et la dépression, c'est peut-être une meilleure façon.
D'accord. C'est bien noté, Frédéric. Très bon message. Je redonne le numéro pour l'Association québécoise de prévention du suicide. On le fait systématiquement. Je pense pas que c'est du temps perdu. C'est 1-866-APPEL, donc 2P2L, donc 1-866-277-3553. Et juste un petit message avant de se laisser. Il y a Quatar qui nous écrit pour dire que demain, Taillefer, Alexandre, va recevoir un doctorat honoris causa de l'UQAM. Donc, bravo. Tu vois, on ne le savait pas, mais là, on le sait. Ben merci pour la discussion. Ça nous fait réfléchir. C'est pas évident, c'est pas facile. Mais c'est bien que Frédéric nous a appelés parce qu'effectivement, à un moment donné, il faut trouver le bon équilibre. Tout est dans l'équilibre. Tu veux pas, parce qu'il joue en ligne, le prendre pour quelqu'un qui va commettre un suicide. Là, mais en même temps, tu peux pas faire semblant, si ça devient excessif, qu'il n'y a pas un problème. Fait qu'il faut trouver une bonne façon. Lui, il nous dit d'y aller d'une façon un peu plus positive. Mais moi, là-dedans comme dans le reste, c'est vraiment de trouver le bon équilibre. C'est ça qui est important. On va s'arrêter et puis au retour, on va parler de cette crise de confiance que beaucoup d'entre vous avez par rapport aux médias. Et on va avoir Jean-Marc Léger pour en discuter. Est-ce que vous avez en fait encore confiance aux médias après la pause?